Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew et je suis accompagné de Lana. Bonjour Lana.
Bonjour.
Et nous accueillons Florian Gigot. Bonjour Florian.
Bonjour.
Florian, peux-tu te présenter un petit peu ? Tu es un nouvel éditeur ?
Je suis un nouvel éditeur d'un ancien éditeur qui existe toujours, que j'ai été très longtemps Silex, enfin depuis toujours j'ai été Silex, puisqu'on a débuté comme cela. La vie faisant, séparation, comme la vie.
Oui.
Nouvel éditeur est arrivé. Fantasy Game, et voilà, donc depuis pas très longtemps, et par contre on arrive avec pas mal de choses, donc après on va voir comment ça va se dérouler. Comme tout nouvel éditeur, c'est jamais très simple, mais effectivement nouvelle aventure.
Donc on va développer tout ça dans un petit instant, mais on va commencer par notre traditionnel fil rouge de Cannes. Donc dans ce fil rouge, on va te poser quelques questions sur ton activité de joueur.
Ok.
Et on s'est dit... Cannes, remise des prix, l'as d'or. Donc, ouais. On va imaginer des as d'or, mais les as d'or pour toi. Quel est pour toi l'as d'or du jeu pour rire avec les potes ?
J'avoue que je suis un vieux, je suis pas très fan de ce genre de jeu, mais pour moi, ça reste Time's Up. Je reste sur un truc un peu... C'est le seul moment où je trouve que tout le monde se lâche, surtout au moment des mimes, ou même quand t'es ridicule, c'est souvent là où t'es le plus gêné, mais où tu te marres le plus. Mais c'est pas vers la personne,
ouais.
Et c'est vraiment plus participatif, et plus tu es ridicule, parfois plus tu y vas. Et je trouve que c'est un jeu qui marche toujours autant. En tout cas, enfin après, je suis pas client de ce qui sort aujourd'hui, donc je pourrais pas comparer, mais ouais, c'est ce qui a marqué plutôt mes soirées fun.
Pour toi, quel est l'as d'or du jeu qui fait le plus fumer le cerveau ?
Donc un vrai as d'or.
non, un jeu que toi tu estimes.
Que j'aimerais. Je pense que ça reste Brass, et comme Brass est sans doute le jeu que j'aime le plus au monde, avec quelques autres aussi, mais voilà. Dans cette catégorie-là, je pense que Brass, je pense que je peux rester un peu... J'aime pas trop rester trop longtemps à faire de l'analysis-paralysis, mais Brass fait partie de ce genre de jeu où je... Merde, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, je peux péter un petit neurone, il reste plus beaucoup, mais ouais, c'est le genre de jeu qui peut... Avec peut-être Mage Knight aussi. Mage Knight, pareil, que j'adore.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer ?
Oh, il y en a beaucoup, et beaucoup de jeux récents. Ça va être peut-être on abordera ce sujet, mais je trouve qu'il y a une forme d'appauvrissement de la complexité. Et moi, qui suis plutôt joueur qui aime bien faire travailler ses neurones, c'est pas vrai, mais qui a une réflexion, une profondeur de jeu. Je trouve qu'il y a un petit peu moins cette profondeur de jeu pour une raison évidente du marché aujourd'hui. Mais en tout cas, ça ne correspond pas à mes attentes de joueur et. J'ai pas un jeu particulier, mais globalement, une bonne partie de la production actuelle ne satisfait pas forcément mes critères de joueur. D'où la naissance aussi de Fantasy Games pour ça, pour satisfaire ce que j'ai envie de faire. Donc, pas un en particulier, mais beaucoup de productions récentes.
Pour toi, quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie ?
Beaucoup. Civilization, Sid Meier's, l'adaptation. Ça reste. Je peux même refaire la partie plusieurs fois, voire appeler les gens et discuter avec eux pour refaire la partie en débrief. Et c'est le genre de jeu où je peux passer. Enfin, ce genre de jeu. Ouais. Je cite toujours les mêmes parce que c'est. Mais enfin, quand on est vraiment accro à quelque chose, c'est vraiment là-dedans qu'on va. C'est Mage Knight. Je joue plus en solo, ce qui est très rare parce que j'aime pas forcément les jeux solo. Je joue beaucoup à Brass aussi, et c'est le genre de jeu où je peux avoir ce genre d'expérience. Et Civilization, le côté un peu 4X où on peut se foutre un peu sur la gueule, mais moi j'aime pas trop ça et j'essaye toujours de développer ma civilisation. À la fin, je gagne pas souvent. C'est vraiment le genre de jeu où je peux passer beaucoup de temps à repenser le truc et derrière à dire attends, bouge pas, je t'embête pas là, tu bosses ? Ouais, mais attends, j'ai 3 trucs à te dire. Et en fait, ça débriefe pendant 1 heure. Voilà.
Quel est l'as d'or du jeu le plus moche ?
Bricolage Aids.
C'est ce que j'allais dire. Ça peut être un jeu que tu aimes, mais que tu trouves.
J'adore. Je suis vraiment accro à ce jeu. Il est vraiment extraordinaire. Mais je ne supporte pas sa couve. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui vont trouver ça génial et absolument beau. Moi, je ne supporte pas cette couve. Et j'ai autant que j'adore le jeu. Et je l'ai dit, donc je peux très bien en dire du mal. Parce que je vais essayer d'en faire quelque chose que j'aime. Et encore une fois, en tant qu'éditeur, c'est surtout ce qui importe, c'est ce que je fais par rapport à mes goûts. Voilà.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va pouvoir commencer à parler de Fantasy Game maintenant. Et de toi?
Avec plaisir, j'aime bien ça.
Est-ce qu'on peut commencer par ton passé de joueur?
Ouais, bien sûr, on peut. Sur le, d'un point de vue éditorial ou d'un point de vue joueur-joueur?
Comment t'es arrivé à l'édition?
Alors, c'est l'histoire, il faut revenir à Silex à l'origine. Du coup, la raison du pourquoi. En fait, c'est une assemblée de personnes qui avaient une envie. Et on s'est dit, tiens, si on pouvait trouver les compétences pour faire quelque chose ensemble. Et il s'est trouvé que la création de Silex est née comme ça. C'est trois personnes qui se sont rassemblées en se disant, tiens, si on faisait une maison d'édition, parce qu'il y en a un qui avait un jeu, l'autre qui savait monter des structures, donc des entreprises, il savait les gérer. Et un troisième qui était fan de jeux et qui faisait partie d'associations. Et c'est comme ça que ça a commencé en disant, sur un coup de tête. Allez, tiens, si on crée un truc.
Et tu es lequel des trois?
Alors, je suis celui qui faisait la partie administrative. Ah. Donc, c'était surtout tout ce qui était gestion, localisation, la partie création de l'entreprise, trésorerie, financement, trouver les jeux aussi, la partie localisation. Donc, la plupart des jeux qui ont été sourcés par Silex, j'allais les chercher. Bah, pour pas leur faire de pub, mais ils le méritent quand même. Hein. C'est Amalfi, on allait le chercher. Après, c'est Pierre qui a tout développé. Pierre, qui est l'autre associé de Silex, qui lui s'occupait de la partie créative, etc. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Puis il y avait mon frère qui nous a rassemblés. Donc à l'origine, Silex, Pierre, je ne le connaissais pas, mais il connaissait mon frère. Et ces trois personnes-là sont parties dans cette aventure. Et vraiment, c'était un coup de tête pas vraiment déraisonnable, mais qui a duré quand même 8 ans. Et ça a été chacun avec ses compétences, en disant qu'on allait chacun pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Et c'était une très belle expérience. Et puis voilà, ce qui est comme tout mariage, au bout d'un moment, les choses évoluent et on se retrouve avec Fantasy Game aujourd'hui. Et ça fait partie de ce qui est un parcours de vie, donc grosse expérience. Donc ça fait bientôt 10 ans, hein, mine de rien, que le monde du jeu m'accompagne. Je sais pas si je l'accompagne bien, mais lui est toujours avec moi en tout cas.
Donc Fantasy Game, ça démarre quand?
Là maintenant, en vrai, aujourd'hui. Puisque c'est l'ouverture du Festival de Cannes, donc en vrai c'est tout de suite que ça a débuté. Le premier jeu qui va sortir, ce sera El Burro, qui va arriver courant mai, qui sera distribué par Asmodée. Et la vraie naissance de Fantasy Games, c'est aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que les jeux sont exposés au public, au-delà de la renommée qu'ils peuvent avoir et les connaissances que les joueurs peuvent avoir de certains jeux. C'est vraiment aujourd'hui qu'on va montrer les jeux de Fantasy Games au public. Donc aujourd'hui, c'est la naissance de Fantasy Games, au-delà de la date de création de l'entreprise, etc. C'est vraiment la naissance, c'est Cannes 2025, première exposition au monde ludique, avec pas mal de jeux, puisque le catalogue est quand même assez riche, mais des grosses ambitions, et puis très très orienté joueur expérimenté, donc pas facile à porter, mais on va voir comment ça se déroule. Et puis c'est pour ça que la température, c'est important aussi pour la naissance d'une entreprise, voir comment est-ce que le public réagit à ça. Donc Cannes, c'est le meilleur événement pour ça, en tout cas en France.
Parce que du coup, Silex, c'était des jeux initiés experts, et toi t'es parti, tu veux faire que de l'expert?
Alors je sais pas ce que je ferai, en tout cas c'est l'idée, c'est vraiment de faire les jeux plutôt comme on disait tout à l'heure, c'était partie de la réflexion dans les jeux aujourd'hui qui me satisfait plus forcément. En tout cas, il y a une forme de chaos qui vient remplacer la vraie réflexion, où poser une stratégie et réfléchir à ce qu'on veut faire, ça, c'est vraiment ce que je veux faire dans les jeux. Après, il y a des Lynx qui va sortir chez Fantasy Games aussi, et pas un jeu que je pourrais qualifier d'expert, puisque c'est quand même un jeu, c'est plutôt un party game pour gamers, mais il faut avoir une vraie stratégie, il faut savoir gérer son argent, il faut avoir un bon tempo, mais on n'est pas dans un jeu complexe, on n'est pas dans un jeu c'est pas El Burro, où on va avoir des choses qui sont beaucoup plus complexes à poser. On est quand même posé sur une gamme de jeux qui est vraiment un peu plus orientée pour, on appelle ça gros joueurs, mais voilà, joueurs genre expérimentés. Ouais.
Et on a pu voir justement le premier jeu, Canal, qui était sorti initialement chez Cinex, il va rejoindre Fantasy.
En fait, il est déjà sorti, puisqu'il est déjà dans le commerce, effectivement brandé chez Silex, et ça reste un jeu Silex, puisque la marque Silex est apposée sur le jeu. C'est une particularité, parce que aujourd'hui, je fais plus partie de Silex, mais le jeu est venu avec moi chez Fantasy Games, mais pour la partie internationale. Donc Canal est sorti, et il reste brandé Silex. C'est un peu complexe à comprendre parce qu'aujourd'hui, bah, Silex n'a pas d'intérêt à faire la promotion d'un jeu qui ne lui appartient plus, même si il a été vendu sous l'édition Silex, puisque c'est Silex qui avait travaillé dessus. Donc, bah, c'est l'ensemble des personnes de Silex, donc Pierre et moi, qui avons travaillé sur le jeu, et il a été vendu au distributeur, donc Asmodée, sous la marque Silex. Donc, quand la production est partie, c'était parti dans cette forme-là. Donc, il n'y avait pas de raison de l'enlever puisque c'était un produit Silex. Mais effectivement, aujourd'hui, Canal fait partie du catalogue de Fantasy Game, notamment pour l'international. On reviendra peut-être sur ces sujets-là, mais effectivement, le marché français n'est pas un marché suffisant en soi, surtout pour ce type de jeu-là, un peu qui gratte un petit peu les neurones. Et là, on a besoin d'avoir quelque chose qui va se répandre sur l'international. Et Canal, effectivement, a rejoint le catalogue de Fantasy Games. Mais ça reste un jeu Silex à l'origine. Maintenant, s'il devrait y avoir un reprint, ce sera un reprint sous la marque Fantasy Games.
Oui. D'accord. Mais le reprint, pour l'instant, n'est pas programmé.
Le jeu vient de sortir, donc il y a 2 semaines. Donc, je pense que c'est encore un peu tôt. Enfin, même si on pourrait se dire que a priori, ça va pas arriver, parce que... Bah, malgré la qualité du jeu, le contexte fait que Silex n'a pas d'intérêt à faire la promotion, et moi, de faire la promotion d'un jeu où il y a une brand des Silex dessus, c'est quand même aussi compliqué, puisque j'ai pas forcément vocation à. Maintenant, le jeu est vraiment extraordinaire, mais voilà, c'est un jeu, c'est un Uwe Rosenberg pour joueurs qui adorent Uwe Rosenberg, avec toutes les sensations, et très très épuré. Maintenant, voilà, c'est malheureusement, le jeu a peut-être été condamné lors de la séparation et la récupération, en tout cas pour le marché français.
Au niveau de l'édition, il est déjà en multilingue et peut être distribué à l'international.
Alors oui, là il va déjà être distribué à l'international. Donc là, pour tout vous dire, je suis déjà en cours de production pour les pays à l'international. Donc les licences sont déjà signées pour le développement à l'international sur le jeu, donc sous Fantasy Games. Et donc là, à partir de là, le jeu il fait vraiment partie du catalogue. Et c'est comme ça que l'entreprise va se développer aussi. Et c'est important pour l'entreprise d'ailleurs de développer le marché international.
Tu vises international, US, Canada.
Soyons très clairs, il n'y a pas de limite à ce qu'est l'international, c'est le monde entier. En fait, tout pays qui souhaite faire l'adaptation d'un jeu est le bienvenu. La problématique de l'internationalisation, c'est le marché de chacun des pays. Et un jeu comme ça, un coût de production très élevé, donc on appelle ça le MOQ, donc le Minimum Order Quantities, qui est la quantité qu'on doit produire pour que ce soit un peu rentable de lancer une production. Donc la première chose qu'on a essayé d'affaire, c'est de faire en sorte de grouper les pays pour qu'ils puissent lancer une production commune et de minimiser les coûts. Et à partir de là, on peut essayer de baisser ce MOQ, donc de cette quantité de production pour chacun des pays, qui va augmenter la quantité globale de production. Et ça, c'est très intéressant. Donc là, c'est intéressant parce que c'est Uwe Rosenberg, parce que le jeu est très intéressant en soi. Il a des qualités intrinsèques qui sont vraiment excellentes. Donc à partir de là, il y a pas mal de partenaires qui ont déjà joint cette production. Maintenant, on est sur chacun des pays qui joignent cette production. C'est pas des quantités, on parle pas de 10 000 boîtes. Donc c'est des quantités restreintes. Donc il faut beaucoup de pays. Donc l'international, c'est le monde entier, avec des quantités qui varient en fonction de chacun des pays. Évidemment, les États-Unis portent plus que l'Espagne, par exemple. Voilà.
Pour ma curiosité, en termes d'édition, tu parles de MOQ, c'est-à-dire que si tu fais une production de 1000 jeux en portugais, 1000 jeux en espagnol, 1000 jeux en italien, est-ce que ça arrive en même coût que 3000 jeux en français ?
Alors, pas du tout. Non. En fait, et c'est un vrai souci, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des langues, on va changer les plaques d'écriture, comme les langues ne sont pas les mêmes partout. Donc, on pourrait faire quelque chose qui serait de faire une seule édition, mais avec multilingue, c'est-à-dire qu'on mettrait les glossaires à l'intérieur dans chacune des langues, mais il faudrait d'autres boîtes avec chacune des langues. Il faudrait que ce soit compatible sur l'ensemble des éléments. Le seul petit souci, c'est que pour Canal, par exemple, il y a les titres sur les cartes. Donc, on pourrait éventuellement splitter la carte avec le titre en deux en mettant le portugais et l'espagnol, par exemple. Mais tout de suite, ça devient un peu moins lisible. Alors, est-ce que le titre dans Canal a une vraie importance? Je vais vous répondre tout de suite. Non, parce que le jeu est tellement abstrait qu'en vrai, je saurais même pas vous citer 4 noms de bâtiments de Canal. En vrai, moi, le thème m'importe peu sur ce type de jeu-là. Sur d'autres, beaucoup plus. Mais sur celui-là, vraiment, c'est la mécanique qui m'importe. Mais c'est beaucoup plus compliqué de faire du multilingue sur ce type de jeu-là. Même si prêtait plutôt pas mal. Et pour répondre à ta question, effectivement, la problématique, c'est de trouver comment faire une production par pays qui soit suffisante pour que ce pays puisse le faire de manière autonome. Parce que justement, chaque pays a son propre coût de production. Là où on va gagner des coûts de production, c'est sur les plateaux qui ne portent pas de texte. Sur les boîtes, elles sont chacune par pays, donc là j'ai un coût supplémentaire. À chaque fois qu'il y a un pays qui se joint à la production, il y a un coût supplémentaire. Donc 3000 c'est pas égal à 3 fois 1000.
La production se fait où ? Il y a une...
Alors, toujours en Chine, parce que aujourd'hui, j'ai pas trouvé de partenaire qui soit financièrement attractif en Europe. Il y a eu un petit moment où la question se pouvait se poser, c'était lorsqu'il y avait une crise des transports où les conteneurs avaient explosé. Donc là, j'ai à peu près tout entendu, mais comme quoi il n'y avait pas vraiment d'explosion que le coût par jeu. Alors, on ne doit pas produire les mêmes quantités de jeux, mais à la quantité de jeux que moi, je produisais, et là, on parle de l'époque antérieure à Fantasy Games, mais il était impossible pour moi de faire une production européenne, allemande ou polonaise, c'était inenvisageable, malgré l'absorption des coûts de transport qui avaient bien explosé aussi à cette époque-là. Donc ça vous donne aussi une idée de, quand on parlait d'un conteneur qui était à 10-15 000 euros, on trouvait encore plus intéressant de produire en Chine que de produire en Europe. C'est vous dire le gain qu'il y a quand même et la marge différente qu'il y a entre les usines chinoises et les usines européennes. Alors après, on peut tout imaginer, hein, mais encore une fois, on revient à une réalité économique. Produire un jeu en Chine, c'est peut-être pas bien pour le monde, pour l'économie, pour tout ce qu'on veut en écologie, etc. Mais il y a une réalité qui, c'est qu'un jeu, on le produit sur ce type de gamme-là, on ne le produit pas à 10 000 exemplaires. Si on veut être rentable, bah, il faut trouver les points de marge. Et les points de marge, bah, on les a sur la production, parce qu'encore une fois, on est l'éditeur. Alors, pour faire vite fait le parcours, l'éditeur, c'est celui qui porte le plus de risques. L'auteur, normalement, il devrait avoir un autre travail, ou alors il est à plein temps et c'est une rémunération qu'il a via d'autres jeux, parce que c'est un auteur bankable. Ou alors c'est pas son métier à plein temps, donc il est pas en risque. L'éditeur, il porte tous les risques des coûts graphiques, de l'édition, de l'échec, etc. Et le distributeur, si tant est que l'éditeur est un distributeur, vu la quantité de jeux qu'il distribue, amortit un échec sur l'ensemble des jeux qui réussissent. Donc, encore une fois, on est sur une échelle de masse. Plus on est grand, plus on est puissant, plus on peut apporter, on peut porter des échecs. Un éditeur qui porte 2-3 jeux par an, un échec, ça peut le couler. Et encore une fois, on revient à cette problématique de quantité et donc de mondialisation, et qu'un jeu, surtout expert, ne peut pas vivre que sur un marché français.
Justement, au niveau économie, Fantasy Game fait le choix de partir sur du expert,
ouais,
qui est une niche dans la niche.
Ouais.
Puisqu'aujourd'hui, on voit que le public cherche beaucoup de jeux familiaux.
Ouais.
Et c'est des coûts forts, puisqu'il y a beaucoup de matériel, généralement, dans les, oui, jeux experts.
Ouais.
Donc, moins de clients potentiels et des coûts plus forts
ouais,
au niveau du business plan. Comment ça marche ?
C'est compliqué, c'est un équilibre. Encore une fois, si on ne parlait que d'un marché français, ça ne serait pas viable. Après, il y a différents modèles. La localisation, c'est pas la même chose que de faire en interne le jeu. Fantasy Game a cette petite particularité, bon, peut-être pas particularité, en tout cas, c'est le modèle qui a été choisi, c'est que l'intégralité des jeux qui sont édités par Fantasy Game, je possède les droits au-delà de la France. Ce qui veut dire que quand je prends un jeu en France, je prends pas le risque que du marché français. Je prends un risque sur un marché soit européen, soit mondial. Prenons l'exemple de Bricolage Heads. Bricolage Heads va être une récupération d'une licence, puisque le jeu existe au Japon, mais j'ai les droits pour le reste du monde. Alors certes, le jeu n'aura pas la même tête, puisque l'illustrateur n'a pas choisi de poursuivre l'aventure avec son éditeur japonais. Donc le jeu va avoir la même mécanique, enfin quasiment la même, mais va être refait par Fantasy Games. Et l'intérêt pour Fantasy Games, c'est de développer ce jeu-là sur le monde. Si je ne le faisais que sur la partie française, il était inimaginable de pouvoir porter un jeu comme ça, ne serait-ce que par les coûts engendrés par la refonte graphique.
Voilà. Okay. Donc un investissement plus fort au départ, si,
ouais,
tu dois avoir une licence plus large,
oui,
mais qui du coup peut être compensé, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, sur une distribution, enfin sur une édition.
Oui, après c'est le marché français n'est pas unique au niveau de son comportement. C'est-à-dire que ce qu'on décrit aujourd'hui sur cette mouvance du jeu un peu moins gamer pour plus de l'initié familial, il est partout en Europe. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens font exactement le même constat. Les Américains, c'est un peu moins, mais ils ont des problématiques de logistique qui sont beaucoup plus fortes, donc les marges sont moindres. Et ils ont aussi une certaine crise. On va pas rentrer dans la politique, mais ils ont des problématiques avec un président qui change les droits de douane, etc. Donc moi, je produis en Chine, vous avez compris, donc problématique. Ah, si Trump décide demain de changer les droits de douane venant de Chine à 25 points, le distributeur avec qui je travaille aux États-Unis va peut-être pas avoir la même logique de production.
C'est une question que vous avez déjà eue, c'est déjà arrivé.
Alors c'est en cours, là, c'est déjà, j'ai un jeu là qui est en stand-by, justement, en attente de voir quelle est la politique qui sera appliquée. Le seul problème, c'est que, encore une fois, on va pas juger de problématique politique, mais la versatilité du président américain fait qu'ils ne savent pas se positionner. Quand on parlait de stabilité en France pendant très longtemps, de dire à savoir on aimerait bien une stabilité politique parce qu'on n'avait pas de gouvernement, etc. Et ben aux États-Unis, ils ont une problématique pire qui s'appelle Trump. Toutes les personnes avec qui je travaille aujourd'hui aux États-Unis me disent qu'ils ne savent pas comment ils vont faire venir les jeux, puisqu'ils ne savent pas quelle est la taxe d'entrée.
Ouais.
Et ça, c'est un vrai problème, parce que l'import, c'est le cœur de mon business de vendre chez eux et de eux de trouver des jeux qui les intéressent. Mmh. Donc du coup, ils vont privilégier, alors certes, il y a une logique du marché local, mais produire sur le marché local, certains jeux ne savent pas, de la même façon qu'on ne sait pas produire certains types de jeux en Europe, les Américains ne savent pas produire certains types de jeux aussi aux États-Unis.
On a vu de grands éditeurs français reculer sur le jeu expert. On a vu un Matago notamment qui ne va plus localiser en son nom.
Ouais.
Pareil, un Super Meeple qui change un peu sa politique de distribution, va faire un peu plus de ventes en direct. Toi, comment tu vois ça ? Est-ce que ça te fait peur pour ton business ? Est-ce qu'au contraire, ça t'ouvre une porte sur un marché qui va se réduire un peu en termes d'édition ?
Alors, vaste sujet. On a 3 heures pour en disserter.
Allez, c'est parti.
C'est parti. Le monde change et je pense qu'il faut savoir s'y adapter. Comme on évoque, la problématique, elle part du joueur qui n'a plus forcément la même consommation. Partons déjà de la base. Le joueur aujourd'hui ne consomme pas moins d'argent, il consomme plus. Son panier moyen d'achat est supérieur à ce qu'il était avant. Donc le panier moyen augmente. Par contre, il n'achète pas les mêmes jeux. Exemple, avant il achetait un jeu expert à 60 euros. Aujourd'hui, il va acheter 2 jeux familiaux à 35, donc 70 euros. Son panier a donc augmenté, il a dépensé 10 euros de plus. Mais par contre, il a 2 jeux. Donc le marché du jeu doit s'adapter à ce modèle-là. Les distributeurs aussi. Et donc, l'éditeur, qui est un petit peu à la bout de chaîne, doit trouver des solutions. Ces solutions, c'est soit effectivement faire, comme tu le décris, des changements de politique éditoriale. Moi, je viens de créer Fantasy Games sous l'idée que le jeu expert avait de l'avenir, avait une attente, et que c'était pas un problème de positionnement, c'était un problème sans doute de qualité, et de trouver ces marchés qui ne soient pas que francophones. Donc à partir du moment où je fais le choix de dire « je veux faire ce type de jeu-là », je dois développer le marché international. Et ce marché international répond à la problématique des coûts et des marges. Est-ce que je dois continuer à faire du jeu expert aujourd'hui ? Oui, parce que c'est ce que je veux faire. C'est ma passion, et que si ça s'écroule, tant pis. Maintenant, quelles sont les solutions derrière ? Je pense que la voie de Super Meeple aujourd'hui, elle est pas complètement abouti, parce que c'est une voie avec un distributeur où il continue à travailler avec son distributeur, et que les boutiques qui certes aujourd'hui suivent aussi le mouvement des joueurs, donc les joueurs ne vont plus aux boutiques pour acheter le jeu expert, les boutiques donc ne vendent pas le jeu expert puisque les joueurs ne viennent pas, que les boutiques ne savent pas forcément vendre les jeux experts, parce que vendre un jeu expert, ça demande de connaître des règles qui prennent 10-15 minutes, alors que un autre jeu du type familial ou autre, qui va répondre à l'attente de ce fameux panier moyen, je consomme plus mais pas la même chose, pour une boutique, on a tous le même problème, à la fin du mois il faut payer les charges, les salaires, se payer soi, etc. Donc cette logique-là, il faut trouver les solutions qui vont derrière. Super Meeple a fait de la précommande. J'ai pas parlé à leur nom parce que je connais pas leur modèle économique, mais de ce que j'ai compris, effectivement, il y aura plutôt de la précommande auprès des boutiques, et que ces boutiques-là pourront recevoir les jeux, et s'il n'y en a plus, ils ne pourront plus. Ok. À mon sens, et c'est ce qui va se produire avec Lynx, le jeu ne sera pas distribué par un distributeur, il sera distribué par une boutique. Donc c'est un accord entre un éditeur et une boutique qui va porter le marché. Donc en fait, on imagine exactement comme du crowdfunding, donc c'est directement, on bypass le distributeur et on s'adresse directement à l'acheteur final, le client, qui voudra consommer ce jeu. Donc il pourra trouver Lynx, typiquement, dans la boutique, sans passer par le distributeur. Ce qui veut dire que pour l'éditeur, donc on parle de s'adapter, se réinventer aussi, trouver des solutions alternatives, donc de proposer un jeu via l'éditeur, comme le propose Super Meeple sur son propre site, trouver des solutions pour essayer de marger plus. Je pense qu'ils ont fait un post qui était très explicite sur savoir quelle était leur marge, ils sont très transparents là-dessus, et c'est très très bien. Et de l'autre côté, c'est d'essayer de dégager le plus de marge possible. On en revient à une problématique, les quantités, donc travailler avec une seule boutique, c'est aussi la boutique qui va aussi porter quelque chose, donc elle va apporter aussi un certain risque avec l'éditeur, et donc ensemble on va pouvoir essayer d'avancer sur cette solution là. Alors on va avoir moins de quantité mais plus de marge, ça c'est valable pour le marché français, très bien. Maintenant sur le marché international, c'est trouver toujours pareil, ces deals avec d'autres éditeurs ou distributeurs pour chacun de ces marchés en dehors de la France. Donc le premier, c'est d'installer le jeu dans une communauté de joueurs, parce que je suis français, que la boîte est française et que je veux développer ce marché français, et que c'est plus facile simplement parce que bah, c'est là où je vis, donc c'est plus facile de communiquer en français. Mais encore une fois, Fantasy Game n'a pas vocation à travailler que pour la France, il a vocation à travailler pour l'international. Et si c'était pas le cas, Fantasy Game mourra demain.
Donc ça veut dire, si tu passes en direct vers les boutiques, ça te fait aussi plus de travail à communiquer en direct et à motiver ces boutiques, on va dire, sur le jeu.
Alors ce sera pas toutes les boutiques, parce que on peut pas adresser toutes les boutiques. Alors Fantasy Game, hein, on va se le faire très vite, c'est une personne.
C'est la question que j'allais te poser.
Ça fait à peu près 15 à 18 heures de travail par jour. Ça vous laisse le temps de dormir pas grand chose. J'ai un petit bonhomme à élever. Voilà, il a 7 ans, faut l'emmener à l'école, faut lui faire les devoirs, faut passer du temps avec lui. Donc c'est aussi du temps à côté. Donc voilà, on va pas se mentir, hein, les nuits sont très très courtes, il y a une certaine fatigue qui s'accumule. Mais à côté de ça, il y a aussi un projet. Et ce projet-là, bah, il faut qu'il puisse être réalisé avec des partenaires. Donc trouver du temps pour ses partenaires, leur trouver les outils aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés. Et donc après, il faut faire le choix avec qui on travaille. On peut pas travailler avec tout le monde. Donc la petite boutique, je pourrais pas forcément l'adresser. Toujours pour la même problématique, la problématique des quantités. Adresser aussi avec une problématique qu'est le transport, parce qu'au final, dans cette réalité économique, c'est pas le jeu qui va coûter le plus cher, c'est le transport. Et ça, c'est un vrai souci. Et donc la logistique, il faut trouver un levier pour ça. Donc il faut trouver des boutiques qui ont les moyens aussi de pouvoir prendre plus qu'un jeu. Et j'ai pas un catalogue à vendre derrière, donc moi je suis pas Asmodée, même si je suis distribué par Asmodée. Je vais pas vendre un pack de jeux où il y aura 10 boîtes de jeux différents dedans, et donc envoyer tout ça, et donc amortir les coûts logistiques. Là, ça sera pas possible, donc c'est un autre modèle.
Ne pourront recevoir tes jeux que les boutiques que toi tu auras contactées, ou les boutiques peuvent quand même te contacter?
Ouais, elles peuvent me contacter. Après, c'est toujours la même problématique, c'est il faut avoir conscience de ce qu'on va se demander, donc ne faisons pas perdre de temps l'un à l'autre. Si c'est pour commander un jeu, ça sert à rien. Je vais perdre de l'argent, ou alors eux ne vont pas en gagner, et c'est pas le but. Après, si c'est pour satisfaire un client, la vraie recommandation de la boutique, c'est d'aller va sur le site de Fantasy Games et achète-le par toi-même. La boutique va perdre plus de temps à le faire rentrer en stock, à gérer sa compta, etc. Même pour la boutique, ça n'a pas de sens économique. D'où cette problématique aussi pour la boutique de trouver cet équilibre-là. Donc voilà, les boutiques qui seraient intéressées par ce modèle-là sont des boutiques qui sont déjà d'une certaine dimension. Après, c'est une réalité aussi économique, mais ça aussi... Et c'est pas une volonté d'exclusion des petites boutiques, et c'est pas péjoratif vis-à-vis de qui que ce soit. C'est vraiment une réalité économique qui n'a pas de sens pour la petite boutique d'aller faire une commande de un jeu pour Fantasy Games. Par contre, une boutique qui a plus de capacité, là effectivement, elle a plus de possibilités de pouvoir prendre des quantités qui soient adaptées à cette vente-là.
Comme je l'ai compris, c'est que pour Lynx, du coup, ce modèle-là.
Ouais, je vais tester ça là-dessus, parce que simplement, je trouve que le jeu s'y prête bien, parce que c'est justement pas un jeu qui est trop cher et qui permet de pouvoir minimiser les risques. Aussi bien, le joueur peut se dire, ça va, je vais pas perdre d'argent, puisque c'est un jeu à 35€, et il va avoir un certain plaisir. Est-ce que ça va marcher d'un point de vue boutique? Ça sera à voir de manière comment est-ce qu'on va faire la promotion du jeu. Je pense que le jeu est suffisamment bon pour pouvoir continuer à faire du bouche à oreille, et que les joueurs vont faire la promotion par eux-mêmes, et que derrière ça va permettre à la boutique ou aux boutiques partenaires de faire en sorte qu'elles puissent elles s'y retrouver en termes de finances, et moi de m'y retrouver aussi.
Et en termes de marché, tu vas t'appuyer aussi sur du financement participatif?
Alors ça, c'est un autre modèle associé, c'est que comme les jeux sont mondiaux, la première communication possible, c'est la première visibilité qui ne coûte pas trop cher, c'est de s'exposer sur les plateformes participatives, donc GameFund ou Kickstarter. Yes. Donc là, j'ai un jeu qui va arriver, donc Yin Ziming, qui est une refonte dans la lignée de partenariat qu'on avait à l'époque avec Spielworks, que j'ai récupéré avec Fantasy Games. Et du coup, ce partenariat continue. Comme vous l'avez compris, j'adore ces gros jeux-là et les jeux un peu gratte-neurones. Et donc, à partir de là, ça permet de pouvoir développer les choses sereinement sur une plateforme pour voir déjà l'engouement. Et on parlait de la problématique d'internationalisation, on est là-dedans. Je vais exposer le jeu au monde. Est-ce que le monde a envie de voir ce jeu? Oui, non, j'en sais rien. Donc ça me coûte de l'argent déjà de faire cette démarche-là, mais moins que de faire une production qui va me rester sur les bras et que je ne pourrai jamais écouler ou perdre de l'argent sur cette prod.
C'est intéressant parce que t'es pas le premier éditeur qu'on entend parler, enfin qu'on entend dire que le financement participatif c'est surtout une plateforme de communication plus qu'une plateforme de financement de ta
Bien
première
sûr.
Édition en fait.
Mmh. C'est une évidence aujourd'hui, ça serait alors après il y a différents types d'éditeurs, certains font de la précommande. Queen Games fait que de la précommande, ils ont pas besoin de faire autre chose, ils savent déjà qu'ils ont de toute façon tout le monde se plaindra de ce qu'ils vont faire, mais il y aura quand même tous les joueurs qui vont aller, enfin tous les joueurs qui sont intéressés par leur jeu seront là et ça leur va bien, ils ont pas besoin de faire autre chose, ils font 50 000 à 200 000 et ça leur suffit largement pour faire de la préco et c'est très bien. Moi qui ne suis connu de personne, déjà j'ai besoin d'installer une marque et comment faire connaître une marque dans une volonté de développement international que d'utiliser une plateforme qui va t'offrir la visibilité un mardi ou un jeudi, de voir toutes les personnes qui sont fans de gros jeux, de dire oh c'est quoi, ben je ne pourrais jamais me payer une campagne de pub TV et à partir de là oui c'est de la publicité, c'est derrière il y a une volonté de faire en sorte que le jeu marche et je vais tout faire pour que le jeu puisse fonctionner sur la plateforme, mais en vrai c'est de l'achat publicitaire et c'est la première démarche pour pouvoir faire en sorte que le jeu puisse avoir par la suite un développement en retail, donc en retail avec des partenaires dans chacun des pays à l'international, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Quand moi je cherche à sourcer un jeu, la première chose qu'on fait c'est de regarder sur les plateformes participatives. Alors évidemment il y a plein d'autres lieux où il y a des jeux qui sortent aussi directement en retail, encore une fois c'est le cas de Bricolage Aid, il n'est pas parti par participatif, mais c'est intéressant de voir déjà ce qui sort et quel type de produit est adapté à qui. Je fais pas de jeux de figurines, donc déjà je sais que j'exclus tous les gros jeux de figurines qui sont pas ma cam et que je ne saurais pas éditer, donc à partir de là, mais ça permet d'avoir déjà une visibilité incroyable.
Tu parles de jeux de figurines et ça tombe bien parce que nous on avait une petite interrogation, parce que quand on a vu Fantasy avec ton beau logo dragon et tout ça, on s'est dit ah ouais. Encore un truc avec des figurines va partir dans du Metfan ou je sais pas quoi, et mince non finalement c'est pas ça.
Alors le logo c'est pas un dragon, c'est un phoenix.
C'est le phoenix,
c'est
d'accord.
C'est un joli phoenix que, alors c'est Crocotam qui a fait le logo, qui sont nommés à l'Asdor avec Odin, on leur souhaite le meilleur. C'est pas du tout mon type de jeu. Je sais pas jouer et j'ai acheté l'intégrale de Conan de Monolith et je crois qu'il...
Il est sous ses lots ?
Oui.
Mais il est beau.
Mais il est beau, hein. Enfin je crois parce que j'ai vu les photos, mais... voilà, après c'est terrible parce que c'est le genre de jeu où effectivement je me suis dit c'est pas ce qu'il faut que je fasse parce que c'est exactement ce qui se produit, ça prend une place de dingue. Et quand je fais un jeu, et c'est pas lié aux qualités du jeu en lui-même, c'est qu'à un moment un jeu c'est fait pour un type de joueur et je me suis trompé dans mon achat parce que je ne joue pas à ça. Et par contre ça me faisait terriblement envie parce que Frenory avait très très bien vendu son jeu aussi, et ça faisait envie de soutenir aussi cette aventure. C'était un vrai engouement à cette époque-là, faut se resituer comment c'était parti, mais voilà, c'est pas du tout mon type de jeu, mais voilà. En tout cas, non, il y aura pas de figurines, en tout cas pas à ma connaissance proche.
Ça peut être un peu trompeur.
Après, on connaît des jeux où ils vont mettre des figurines pour remplacer les cubes en bois. Hein.
C'est vrai aussi. Alors pour le coup, je le ferai pas pour une raison économique, parce que sinon, je vais pour le coup avoir un autre problème aussi, c'est le financement, la trésorerie de Fantasy Games. Mais non, à ce jour, je m'interdis pas d'en faire, mais il faudrait qu'il y ait une vraie raison ludique et que ce soit pas, par contre, un jeu de figurines. C'est pas un jeu d'escarmouche.
Un stretch goal KS ou...
Non, je pense même pas, parce que là, tous les stretch goals pour Yin Ziming sont finis et il n'y a pas une figurine en plastique, donc je saurais pas où la mettre. Après, j'ai une affection pour le bois particulier, je
Merci.
Trouve que c'est assez joli.
Ouais, on aime aussi.
J'aime beaucoup l'acrylique en ce moment. Après, voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez sympathiques à faire avec, mais pour le coup, voilà, je suis plutôt bois que plastique.
Donc, tu es parti sur un travail de localisation. Il n'y a pas d'accompagnement sur du développement de jeu pour l'instant, en tout cas.
Ah, si, Bricolage Aid, c'est du redéveloppement. Indie, c'est du redéveloppement. Canal, ça a été que du redéveloppement. Alors, c'était l'époque Silex, mais c'était que du redéveloppement. En fait, je ne sais pas faire un jeu en le faisant juste bonjour, bienvenue. Il sera localisé en traduisant les règles. Je ne sais pas faire.
Tu mets ta patte avec ce que tu aimes.
C'est ça. Et c'est surtout aussi difficile au départ dans la négociation, justement, parce que j'essaye de négocier les droits qui soient plus que France, et deux, d'expliquer à l'éditeur avec qui je travaille que son jeu va être retravaillé. Et retravaillé selon mes critères. Et c'est un peu, d'un point de vue très d'ego, un éditeur fait parce qu'il aime ce qu'il fait. Moi, si demain on me dit on va prendre ton jeu mais on va le transformer, ça m'embêterait. Et donc déjà dans l'approche c'est pas simple, Donc dans la négociation, ça limite aussi le nombre de partenaires avec qui je peux travailler. Maintenant, si un jeu est complètement abouti et me convient parfaitement comme ça, ouais, il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais dans l'idée, ouais, j'aime bien toucher... Enfin, c'est tout bête, mais souvent les règles, ne serait-ce que ça, il faut faire quelques adaptations au-delà de simplement une simple traduction. Mais il y a des fois, il y a des points de règles. Comme les jeux sont localisés avec un temps décalé, il y a une production décalée entre le moment où le jeu sort dans le pays, puis sort dans la localisation, donc la France en l'occurrence. Il y a souvent plusieurs mois qui s'écoulent et on a la chance de pouvoir avoir les retours, alors notamment via BGG, hein, qui nous permet de pouvoir avoir les retours de joueurs. Est-ce que cette carte elle est complètement cheatée ou est-ce qu'il y a un problème de production à cet endroit, etc. Donc dans tous les cas, il y a forcément des petits ajustements, forcément, pas forcément, mais il y a souvent des petits ajustements qui se justifient. Et du coup, on profite de ça lorsqu'on fait la localisation ou retravail. Après, il faut se donner la peine de le faire. Hein. Enfin, après, tous les éditeurs ne font pas forcément ça. Et certains peuvent juste sortir le jeu en l'état avec ses défauts et ses qualités. Ce qui, en vrai, ne gêne quasiment pas la plupart des joueurs. Parce qu'on connaît très bien l'utilisation d'un jeu. Aujourd'hui, c'est peut-être 2 fois ou 3 fois l'usage d'un jeu. Est-ce que les joueurs ont réellement le temps de s'apercevoir que le jeu est un problème? Je suis pas sûr non plus.
Donc t'as un gros carnet d'adresses de par ton passé de joueur, tu travailles, tu cherches sur les KS, tu fais beaucoup de salons internationaux pour essayer de repérer des choses à localiser.
Absolument pas à Paris Seine. Tout est en échange, en vidéo call en fait. Hein. Ouais. Encore une fois, on est sur un temps extraordinairement long de journée puisque je travaille avec les États-Unis et le Japon.
Ouais.
Et la Chine pour la production, et en fait ça fait je fais les 3-8 à moi tout seul. Après voilà, c'est le, alors pas tous les jours mais très souvent quand même, surtout quand des grosses périodes d'activité, et comme le catalogue des Fantasy Games est assez fourni, que j'ai quand même quelques ambitions pour sortir plusieurs jeux cette année, bah ça laisse aussi l'avantage c'est qu'en fait on est toujours disponible, puisque du coup on est soit avec les États-Unis pour faire des tests des prochains jeux qui vont sortir, soit avec la Chine pour des problématiques de production, soit avec l'Australie pour certains types de jeux. Mais c'est en vrai, on va pas se, faut bien être clair, hein, je me plains pas de ça. Hein, si je voulais pas le faire, je ne le ferais pas. C'est juste que j'adore ce que je fais et que j'adore faire ça. Après, j'ai la chance de peu dormir, ou quand je dors très très bien, très vite, donc je récupère assez vite. Mais j'adore pouvoir travailler le matin avec la Chine, le soir, alors c'est pose un problème, c'est plutôt avec San Francisco, Los Angeles, ça c'est vraiment vraiment chiant, parce que c'est vraiment un créneau horaire qui est un peu pas évident, mais avec la Chine, à partir de 4-5 heures du mat, on peut commencer à bosser avec eux, et ça c'est vraiment cool. Et surtout qu'on n'a pas tous les Européens qui commencent à travailler dans les grosses structures vers 9h ou 10h, donc on a un petit laps de temps, on est un peu tranquille, et on a son chargé de projet qui est vraiment dédié, c'est ouais ok d'accord, on va faire ça comme ça, regarde ce que j'ai trouvé pour toi, et ça c'est vraiment cool. Et ça pour le coup, après on pourrait produire en Europe hein, bien sûr, mais honnêtement les Chinois sont vraiment très très forts, ils sont de plus en plus force de proposition, en plus ils sont en crise. Et donc ils ont besoin de satisfaire d'autant plus leurs clients. Et donc j'en profite largement pour pouvoir avoir des belles solutions, en tout cas j'espère, pour faire en sorte que les joueurs aussi en bénéficient dans les jeux. Quoi.
On va regarder un petit peu l'avenir de Fantasy Game, qu'on te souhaite florissant.
J'espère, merci.
Comment tu te projettes dedans? Tu auras toujours besoin de mettre la main à la pâte? Ou mettons, t'embauches du monde? Est-ce que tu superviseras de haut et...
En vrai, je ne travaillerai sans doute jamais avec des employés. Déjà parce que je suis insupportable, et que j'ai fait ça pendant toute ma vie d'avant en tant que direction de différentes structures, et qu'aujourd'hui je pense que je suis devenu un ours des cavernes dans mon petit antre, et que j'ai envie d'y rester, et que je préfère travailler avec des gens à distance qui font très bien leur taf, avec des prestataires qui savent ce qu'ils font, dont c'est leur métier, dont c'est leurs compétences, que je paye pour leurs compétences, et on a une relation de travail plus saine que employé-employeur. Et j'aime de moins en moins cette relation, le travail a une étymologie assez évidente, hein, ça vient de l'esclavage, c'est un travail, c'est pas quelque chose qui est souhaité, c'est soumis, et à partir de là je suis plus très en phase avec ça, et j'ai plus du tout envie de faire ça. Et travailler avec une prestation dont les gens ont leurs compétences, et ils ont aussi la capacité de t'envoyer chier en disant bah tu me fais chier, je veux plus bosser avec toi parce que bah ça me plaît pas, et bah c'est très bien, et ça va bien comme ça, parce que je suis beaucoup plus à l'écoute aussi des retours qu'ils sont en capacité de me faire, et donc pour améliorer les jeux aussi, et que je n'ai pas les compétences graphiques et esthétiques assumées, donc autant que ce soit des gens qui ont ces capacités et ces compétences qu'ils le fassent, et donc Fantasy Game a priori ne recrutera pas, bien qu'il devra grandir, mais ce sera de la croissance vraiment par de la prestation plus que par de l'emploi direct.
Très bien,
donc,
merci. Croissance interne. Merci pour cette franchise.
On est là pour ça aussi. Hein.
Est-ce que tu veux nous parler, mais très rapidement, de ce catalogue que tu nous dis déjà touffu ?
Très rapidement, il y a Canal, donc vous avez compris dans la situation laquelle il était en transition Silex Fantasy Games. Tout de suite derrière, il y aura Elboro. Ensuite, il y a Lynx qui va sortir, comme je vais l'expliquer, donc directement sur le site de Fantasy Games et en boutique avec quelques boutiques partenaires. Ensuite, on aura le Game Fund. Pas que je dis Kickstarter pour tout ce qui est crowdfunding, c'est un abus de langage, mais donc du coup ce sera un Game Fund pour Yin Ziming, et puis après on va dérouler jusqu'à septembre avec Stephens, donc qui va arriver, donc un partenariat avec Pythagoras, avec Rola et Costa, c'est les créateurs de Yin Ziming, donc un partenariat de longue durée aussi. Ils travaillent souvent avec des gens qui on s'entend bien, hein, c'est étrange, hein. Et derrière il y aura Bricolages qui arrivera pour Essen si tout va bien dans la refonte graphique.
Ça fait des grosses journées pour sortir tout ça d'ici octobre, effectivement.
Ouais, mais quasiment tout est lancé. En fait, c'est l'avantage, comme j'expliquais juste avant, pour la même raison, c'est que en travaillant avec des prestataires, c'est pas un employé, et donc ce n'est pas une charge permanente, d'un coût permanent à assumer. Et donc de travailler avec des prestataires, ça te permet de travailler sur plusieurs horizons. Et comme vous avez compris que j'avais une charge de travail importante, mais aussi une capacité de charge de travail qui était plutôt agréable, ça permet de pouvoir étaler sur plusieurs projets, plusieurs choses. Et donc chacun a son projet avec les coûts associés, les coûts maîtrisés aussi pour chacun des projets, en disant cette prestation-là graphique, ça va me coûter tant, donc je sais quelle est la marge du projet, etc. Donc en vrai, le monde du jeu, au-delà de l'aspect ludique, profiter d'un jeu derrière, c'est super, mais en vrai c'est un business, donc il faut comptabiliser les choses, savoir quelle est la marge de chaque jeu, est-ce qu'il faut le vendre à tel prix, combien il va coûter, comment va se passer le transport, où est-ce que je peux passer des partenariats, quelles sont les potentialités, etc. Donc il y a des paris certes, mais tout ça c'est quand même gravement maîtrisé, quoi.
T'arrives à dégager une marge à peu près constante sur chaque jeu, ou il y en a où tu...
Non, c'est très variable. Pour le coup, en fait, ça dépend vraiment du matériel. Enfin, typiquement, je sais que Bricolages, je vais faire une marge très faible parce que je veux que le prix du jeu soit autour de 45€. C'est un jeu à deux joueurs. 45€ pour deux joueurs, je pense que c'est pas un problème de matériel, c'est un problème de mental, de savoir est-ce que je peux dépenser pour un jeu à deux joueurs 45€, et même si c'est surtout si c'est un jeu expert, et je pense pouvoir le positionner à ce tarif-là. Donc là, ce type de jeu, il va pas forcément être très profitable, mais je crois beaucoup à son internationalisation.
On en a entendu parler.
Un petit peu.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets, toi, que tu voudrais aborder ?
Je pense qu'on a fait un gros tour, là. Après, le monde du jeu est très très large, donc on pourrait parler des festivals, de Essen, de plein de sujets divers et variés, et de l'évolution du monde du jeu qu'on a un peu plus en détail, mais après, ça mériterait une vraie émission en soi, avec des chiffres et des éléments beaucoup plus concrets. Et encore une fois, toute proportion gardée, hein, Fantasy Games, c'est une tout nouveau éditeur qui débarque. Je n'ai de leçons à donner à personne. C'est juste ma vision du monde et je veux pas l'imposer. J'essaye de développer cette vision-là. Et peut-être que je me trompe, je n'ai pas de vérité. Et maintenant, je me construis autour de ces éléments-là.
Comment tu récupères les éléments du panier moyen des joueurs, le type de jeu qui
travaille généralement avec les différentes boutiques, des très grosses boutiques qui sont en capacité de vous donner aussi ces types de chiffres, et puis même votre distributeur, qui vous remonte aussi les différentes infos qu'ils ont eux avec l'ensemble des boutiques. Donc l'information, elle est connue entre guillemets dans le monde du jeu, et personne n'ignore ce type de phénomène.
Ok, bon, on te souhaite en tout cas une bonne réussite et on se revoit dans quelques années pour parler de tout ça.
J'espère
avec
des chiffres, j'espère aussi des bons chiffres. J'espère, si je suis là, c'est que ce sera encore des bons chiffres. Mais ouais, après, je ne sais pas ce qu'il en sera. Encore une fois, il faut bien comprendre, c'est un pari parce que c'est difficile aujourd'hui, le marché du jeu en France est compliqué, et oui, on est dans la niche de la niche, donc Fantasy Game a choisi un positionnement qui n'est pas évident, donc ouais, il faut aussi soutenir ce genre d'activité, parce que c'est facile de dire après que les jeux experts disparaissent, mais si les joueurs qui sont les premiers consommateurs et donc acheteurs ne suivent pas aussi ce genre d'éditeur, donc Fantasy Game en l'occurrence, bah, il faudra pas venir se plaindre que le constat fait qu'il y aura moins de jeux, parce que les boutiques, elles, ne sont que des suiveurs de marché aussi, elles n'ont pas la capacité à porter ce type d'éditeur, et c'est pas eux de le faire. Donc j'espère qu'effectivement ça puisse se réaliser pour moi et pour l'avenir. Mais encore une fois, c'est difficile, c'est un marché de niche. Ouais.
Très bien, merci beaucoup.
Merci.
Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien, bien.